scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 85 pour le samedi 15 janvier 2011. Aujourd'hui, je vous propose l'interview d'Elie Wolff, qui a été le président de l'Association française pour l'information scientifique, donc l'AFIS en 2007-2008, et est docteur en sciences. Il vient de publier un ouvrage avec la collaboration de Benjamin Lisan et Antoine Tivelle qui s'intitule « Faut-il croire à tout le comment du pourquoi des parasciences ?» L'ouvrage a une volonté encyclopédique, c'est-à-dire qu'il aborde de très nombreux sujets, de domaines considérés comme étant des pseudosciences. Et je dirais qu'il se situe quelque peu dans la lignée du dictionnaire sceptique ou encore de Encyclopedia of Claims, Frauds and Hoaxes of the Occult and Supernatural de James Randi. Il n'est pas par ordre alphabétique, il présente les domaines, disons, les regroupant par thématique. Et donc, j'ai invité Elie Wolff pour venir nous le présenter. Aujourd'hui, je suis avec Elie Wolff, qui vient de publier avec deux co-auteurs, donc Benjamin Lisan et Antoine Tivelle, un ouvrage qui s'intitule « Faut-il croire à tout ? Le comment du pourquoi des parasciences ?» Bonjour.
Bonjour, oui. Donc, je me présente, Elie Wolff. Donc, je suis docteur en sciences, maître de conférence honoraire, et j'ai été vice-président de la FIS de 2007 à 2009, juin 2009. Voilà. Alors, je vais tout d'abord commencer par vous présenter un peu ce qu'est la FIS, l'Association française pour l'information scientifique, qui a été créée donc en 1958 par Michel Rouzet. Donc, Michel Rouzet, dans le premier numéro, avait dit: la grande presse et les périodiques de vulgarisation sont sollicités par des expériences diverses, nécessité d'insérer une information surabondante, laquelle, faute de place, est insuffisamment expliquée. Quête commerciale de la sensation, ne reculant pas toujours devant la désinformation ou la complaisance pour l'irrationnel. D'où une certaine désignation des nouvelles scientifiques. Donc, c'était de Michel Rouzet, les cahiers de l'Agence française pour l'information scientifique de septembre 68. Ah oui, c'est septembre 68. Je suis docteur en sciences, j'ai fait ma thèse à l'Institut Pasteur sur l'interaction des ondes hertziennes sur les milieux biologiques. Et j'ai su après qu'une partie de mes travaux devait servir pour Prior. Prior, donc, était un ingénieur autodidacte qui voulait construire un appareil pour soigner les tumeurs cancéreuses par les ondes hertziennes. Un appareil avait été construit vers les époques 73-74 à Bordeaux, à l'époque où Chaban-Delmas était maire de Bordeaux et Premier ministre. Donc, il y a eu des subventions importantes pour construire cet appareil qui a fonctionné quelques mois et les résultats ont été décevants. Bon, ça marchait très bien sur les rats parce que les tumeurs étaient très superficielles, mais pour les humains, les tumeurs étant beaucoup plus profondes, les ions hertziennes donnaient des résultats donner pratiquement aucun résultat. Voilà. Et, bon, les ondes hertziennes, c'est surtout pour les milieux biologiques. On peut avoir décrochement, si vous voulez, de l'eau sur certaines cellules biologiques, mais dès que l'onde est arrêtée, l'eau se rétablit sur la molécule. Mais quelquefois, on peut avoir des décrochements de l'eau sur, par exemple, sur l'amidon que j'ai étudié. L'amidon est hydraté, par exemple. Si vous le passez au micro-ondes, l'eau se décroche de l'amidon et vous avez de l'amidon caoutchouteuse, qui est le purée mousseline, vous voyez. Que si vous écrasez la purée à la main, vous avez à ce moment-là de l'amidon très hydraté qui n'est pas caoutchouteux. Donc les micro-ondes, dans certains cas, peuvent enlever l'eau de la macromolécule. Donc j'ai fait ma thèse, mais alors ça, je l'ai terminée en 1980, cette thèse. Donc j'ai étudié après, à titre individuel, un peu l'influence des micro-ondes et des ondes hertziennes sur les antennes relais et mobiles. J'ai fait plusieurs articles là-dessus pour Science et Pseudosciences.
Qu'est-ce qui vous a amené à écrire cet ouvrage qui se veut un peu être une encyclopédie consacrée au paranormal ou aux pseudosciences?
Oui. Alors, comme le disait mon préfacier Daniel Coote, avait dit que cet ouvrage est unique en ce qu'il tente pour la première fois, dans un esprit volontairement encyclopédique, de recenser les pratiques alternatives rencontrées dans des domaines aussi variés que la médecine, la thérapie, la divination, la psychologie, la communication interrelationnelle. Alors, alternatif est le mot qui convient, puisque dans la plupart des croyances non rationnelles que ces approches sous-entendent, ont pour contrepoint de prodigieux progrès. Tout sur le plan scientifique ou technique, depuis plusieurs siècles. Et donc, il y a une méfiance, si vous voulez, de certaines personnes pour les sciences, et qui se tournent donc vers des sciences, des fausses sciences.
Dites-nous un mot à propos de vos collaborateurs, donc Benjamin Lissan.
Oui, alors Benjamin Lissan, c'est un ingénieur de l'INSA, Institut National des Sciences Appliquées, et de l'Institut de Physique Nucléaire de Saclay. Bon, et en même temps, il a voyagé beaucoup en Extrême-Orient, donc il connaît très bien les médecines dites alternatives orientales, mais surtout tibétaines. Il m'a beaucoup aidé, parce qu'il a été plusieurs fois clandestinement au Tibet, vous voyez. Donc c'est ça qui m'a... Donc, je fais référence dans l'ouvrage de beaucoup de médecines alternatives, des médecines alternatives tibétaines, qui sont bien sûr complètement chamaniques et avec des incantations. Alors, Antoine Tivet, donc, était prof de civilisation grecque à Nice, à l'université de Nice. Et il avait fait une thèse sur les scientifiques pré-socratiques, dont Hippocrate. Et donc, c'était un... En même temps, il était un grammairien de très haut niveau. Et il m'a beaucoup aidé sur sur la sociologie, justement, sur les doctrines socio-scientifiques comme le positivisme et le scientisme, vous voyez. Et ça m'a été d'un très grand intérêt. Malheureusement, il est décédé le 2 décembre 2010.
Oui, vous avez un peu touché un mot, mais donc, vous êtes l'auteur principal du livre ou comment?
Oui,
ça va,
je suis l'auteur principal, mettons à 80 à 85%, vous voyez. Mais mes co-auteurs m'ont donné un coup de pouce et ont relu l'ouvrage plusieurs fois, vous voyez. Donc ça m'a été très utile, parce que faire un ouvrage encyclopédique de ce niveau, j'ai voulu quand même rester en vulgarisation, vous voyez. Alors, à part le premier chapitre sur la méthodologie scientifique, dont certains trouveront qu'il était d'un haut niveau, les autres paragraphes sont quand même lisibles par un bac plus deux, vous voyez.
Oui,
Alors, pour un sociologue, bien sûr, les rappels sur les rumeurs, c'est du connu, mais pour un scientifique, comme la rumeur d'Orléans, bon, c'est de l'inconnu, vous voyez.
Oui, je voulais vous demander de m'en dire un peu plus sur Eugène Chevreul, parce que vous avez...
Oui, alors sur Eugène Chevreul, je me suis beaucoup intéressé à lui, et actuellement je prépare un ouvrage biographique sur Eugène Chevreul, avec l'arrière-arrière-petit-fils de ce savant, qui est très méconnu. Il est né en 1786 à Angers, et il est mort en 1889, donc à 103 ans, ce qui était assez peu rare à cette époque. Alors, il a touché, à plusieurs domaines, dont il est surtout connu pour les chimistes comme le père de la chimie organique et des corps gras. Toutes les théories sur la saponification sont dues à lui. Et avec Gay-Lussac, il avait préparé la première bougie stéarique, vous voyez, qu'on utilise encore actuellement. Et on lui doit aussi toute la fabrication des colorants et pigments d'origine végétale et d'origine minérale. Parce que Chevreul a été pendant 65 ans directeur technique de la manufacture des Gobelins. Donc, il a mis au point toute la fabrication des soieries et tapisseries pour les Gobelins, et en même temps pour les tisserands de Lyon. Donc, il a fait des cours de chimie tinctoriale pour les... les fabricants de soieries de Lyon. Donc, et à Roubaix aussi, il a beaucoup travaillé avec les filatures de Roubaix. Et même à Roubaix, il y a une statue de Chevreul, vous voyez, pour rendre hommage justement à Chevreul. Alors, d'un autre côté, on doit à Chevreul toute la théorie sur le deal du contraste simultané. Alors, comme il était directeur de la manufacture des Gobelins pendant plus de 60 ans, il s'est beaucoup intéressé au couplage des couleurs. Et les théories de Chevreul ont été reprises par les peintres pointillistes et divisionnistes, comme Signac, Seurat, et puis aussi Delaunay. Et Delacroix, il y a un tableau de Delacroix, c'est vue de la mer à Dieppe, où il avait repris les théories de Chevreul. Alors les théories de Chevreul, on les retrouve dans la théorie des pixels, si vous voulez. Il avait trouvé que lorsque vous avez trois couleurs, si vous voulez, juste à poser, vu à une certaine distance, vous avez la synthèse des couleurs. Et ça, on le retrouve dans la photo numérique ou dans la télévision, vous voyez. Alors ça, c'est... Et il y a aussi un autre côté de Chevreul qui m'a aussi intéressé, c'est toute la démystification de la radiesthésie et du spiritisme. Et là, il a travaillé avec Ampère, le physicien Ampère, et Faraday. Vous voyez, c'est... Donc, dans mon ouvrage, j'ai ressorti un article de Faraday sur les tables tournantes, où Faraday a expliqué que, dans le cas des tables tournantes, il y avait simplement, à un certain moment, addition de tous les mouvements des partenaires, et que, la table pouvait tourner sur quelques dizaines de degrés, vous voyez. Mais il n'y avait pas de rotation complète.
Mais ça, c'est de Faraday. Mais qu'est-ce que Chevreul raconte dans son ouvrage de 1864, donc La baguette divinatoire et les tables
Bon,
tournantes?
alors là, justement, il explique que dans le cadre de son ouvrage de 1854, que dans le cadre de la radiesthésie des pendules et puis des baguettes divinatoires, c'est surtout la vue qui intervient dans le cas des mouvements dits musculaires inconscients, vous voyez? Alors ça, c'est intéressant que la vue pour les sourciers joue un très grand rôle. Si par exemple on bande les yeux d'un sourcier, ben il trouvera pas la source. Vous voyez? Alors ces expériences de Chevreul ont été reprises par Henri Brock et Charpak, et dans l'ouvrage de Charpak et Henri Brock, Devenez sorcier, devenez gourou, devenez sorcier. On retrouve donc l'explication des expériences de Chevreul. Vous
Ah, ok.
voyez?
Oui, je ne connaissais vraiment absolument pas Chevreul, donc je l'ai découvert avec votre
Alors,
ouvrage.
Chevreul, je le considère un peu comme le père de la zététique moderne. Vous voyez? Hein? Alors, il était rationaliste. Mais comme pasteur, si vous voulez, c'était des gens qui étaient assez catholiques. Vous voyez? Alors, il a été ami de pasteur, Chevreul. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est comme il a vécu 103 ans, ben, il a commencé à faire ses premières recherches avec Vauquelin et Fourcroy, vous voyez? Et après, il a collaboré étroitement avec Gay-Lussac. Vous voyez, en particulier sur la saponification et la bougie stéarique. Alors ça c'est et ils avaient avec Gay-Lussac, ils avaient déposé un brevet sur la bougie stéarique. Donc la bougie stéarique parce qu'avant Chevreul, il y avait des chandelles, vous voyez. Et puis les gens qui fonctionnaient avec des huiles souvent d'origine végétale, qui avaient des odeurs épouvantables. Par contre, si on était un petit peu plus riche, on utilisait des chandelles à base de cire d'abeille, puis elles donnaient des flammes beaucoup plus belles et beaucoup plus odorantes surtout.
Oui,
C'est ça qui est un problème qui m'a toujours un peu que dans le cas, par exemple, des représentations théâtrales sous Molière, si on faisait ça dans des salles, on utilisait des lampes encore à huile, vous voyez. Et même jusqu'à Chevreul, ben on utilisait aussi les torches, vous voyez, il a fallu vraiment la bougie stéarique, que ça a été vraiment une révolution. Bon, après, la bougie stéarique a été dépassée comment on appelle ça, l'éclairage au gaz, mais l'éclairage électrique est arrivé beaucoup plus tard, vous voyez. Et alors vers la fin de sa vie, vers 1850, il y a aussi un passage de Chevreul qui est aussi intéressant, c'est qu'il a collaboré avec Claude Bernard sur la transformation des graisses en sucre. Donc ça intervenait dans le processus du diabète, vous voyez? Et aussi l'étude du cholestérol, les mécanismes du cholestérol dans le sang. Alors ces travaux après ont été repris par Claude Bernard et en Allemagne, les travaux de Chevreul ont été considéré avec beaucoup d'importance et Chevreul a été nommé docteur en médecine, pas une origine causale, mais docteur en médecine de l'Académie de Berlin. Donc il était considéré comme docteur en France, comme docteur en Allemagne, mais pas en France, comme pasteur, vous voyez?
Ouais.
Il y a eu aussi une collaboration entre Pasteur et Chevreul. Chevreul s'est beaucoup intéressé donc au pouvoir rotatoire des molécules dans le cas du sucre, vous voyez. Et Chevreul a été, lorsque Pasteur a déposé son article à l'Académie des sciences, je crois en 1800, vers 1836-38, je ne me souviens plus de la date, et ben c'est Chevreul qui l'a accepté. Vous voyez, c'est... On retrouve dans Chevreul quelque chose de... Et avec Claude Bernard, vers la fin de sa vie, il y a toute une théorie sur ce qu'on appelle les propriétés organoleptiques, vous voyez. Et ça, c'est ce qui a été repris par Claude Bernard. Et dans l'ouvrage de Claude Bernard, dans Introduction à la médecine expérimentale, on retrouve un hommage à Chevreul. Vous voyez, c'est vraiment un savant unique. Alors, si vous voulez, il est beaucoup moins connu que Berthelot, parce qu'il s'est battu pendant toute sa vie, Chevreul, contre Berthelot.
Ah ouais.
Berthelot avait des théories en chimie qui dataient d'avant Lavoisier, presque, sur les équivalents chimiques. Il doutait presque de la molécule, vous voyez. Il acceptait l'atome, mais... la molécule, il en doutait. Alors, il y a... Et Berthelot a surtout été un homme politique, un des responsables de la franc-maçonnerie, et surtout, avec Renan, ça a été des responsables de la libre-pensée en France. Ça, c'est un côté positif de Berthelot, vous voyez. Mais par contre... Lorsque Berthelot a voulu se présenter à l'Académie des sciences dans la section chimie, à chaque fois, Chevreul le refusait. Alors, Berthelot a été élu à l'Académie des sciences, mais en section physique, pour quelques travaux qu'il avait faits en calorimétrie. Vous voyez?
Oui, donc,
et c'est assez curieux parce que Berthelot avait une très grande estime pour Chevreul, mais l'a beaucoup plagié dans ses recherches. Alors, Berthelot étant franc-maçon vers les époques 1860 jusqu'à sa mort en 1912, il a été très influent dans tous les ministères et encensé. Et même il a été au Panthéon. Dès qu'il est mort, Berthelot, on l'a mis au Panthéon, vous voyez, quelques jours après. Mmh. Et le cas le plus amusant sur Berthelot, c'est que l'épouse de Berthelot était morte quelques mois avant lui, et dans son testament, l'épouse de Berthelot avait demandé à être inhumée avec son époux. Ce qui fait que l'épouse de Berthelot, qui n'avait rien à voir avec la science, se retrouve au Panthéon avec Berthelot, Marcelin Berthelot. C'est un anachronisme, si vous voulez, au Panthéon. Si un jour vous allez au Panthéon, on vous dira, il y a une personne qui n'a rien à voir ici, qui ne devrait pas être ici.
Donc vous avez travaillé sur la réédition de son ouvrage consacré à la radiesthésie.
Oui, alors là, j'ai ressorti donc l'ouvrage de Chevreul, sur la baguette divinatoire, le pendule explorateur et les tables tournantes. Un ouvrage de 1854. Il avait repris dans son ouvrage une lettre qu'il avait envoyée à Ampère de 1833 sur les mouvements musculaires inconscients, vous voyez. Alors, ce qui est assez... Chevreul s'est intéressé donc surtout à la radiesthésie parce que quand il est rentré au muséum en 1808, il s'est retrouvé avec Antoine Laurent Jussieu, qui était un adepte de Mesmer, de Franz Mesmer, vous voyez. Lorsqu'en 1784, il y a eu une commission royale sur le magnétisme animal, dans cette commission, il y avait Benjamin Franklin, Lavoisier, Monge, Bailly. Alors cette commission, justement, avait dit que le magnétisme animal n'existait pas. Et il y avait Jussieu dans cette commission. Et Jussieu s'est retiré de cette commission pour justement faire en désavouant la commission de Lavoisier et Benjamin Franklin, parce qu'il croyait toujours au magnétisme animal. Quand le cheval est arrivé au muséum en 1808, bon, il a été préoccupé par les doctrines d'Antoine Laurent Jussieu et de son associé Deleuze, qui était des partisans donc de Mesmer. Donc c'est pour ça que Chevreul s'est intéressé dès 1808 pour essayer de contrer donc Jussieu, qui était un adepte de Mesmer.
Mais qu'est-ce qu'il pensait de Mesmer exactement?
Chevreul, il était absolument contre.
Ok.
Il était contre le magnétisme animal et pour le rapport royal de Lavoisier et Benjamin Franklin, qui disait que les doctrines de Mesmer étaient complètement fausses.
Oui, oui.
Et que c'était surtout de la psychologie. Lorsqu'on mettait les gens dans un baquet avec un tas de pics de fer, et dans l'obscurité, les gens avaient certainement des d'adromorphine et autres qui devaient se propager dans leur organisme par peur, vous voyez. Donc il y avait des phénomènes secondaires, si vous voulez, par peur de rentrer dans le fameux baquet de Mesmer. Et qu'il n'y avait absolument rien d'influence de magnétisme dit animal, vous voyez. Surtout que quand vous prenez une baguette de coudrier et autres qui est un pur du bois, donc on ne voit pas très bien comment les ondes ou le magnétisme peut être capté par une baguette en bois.
Oui, c'était les débuts de l'hypnose, mais sa théorie était, la théorie de Mesmer était complètement à côté de la plaque, quoi, il avait.
Ah oui, Mesmer était complètement, il a eu un grand succès, mais c'était un charlatan, hein. Et Deleuze et Jussieu, ça qui est assez difficile à comprendre, pourquoi il considérait encore les théories de Mesmer avec le fluide universel, comme valable, vous voyez.
Oui, je voulais vous demander, comme on arrive vers la fin de l'interview, vous couvrez énormément de sujets dans le livre. Donc...
J'étais pour la première fois, je me suis intéressé aussi à ce qu'on appelle l'eschatologie, au problème des fins dernières et à l'au-delà, vous voyez. Donc, il y a deux chapitres dans l'ouvrage. Sur les fins dernières, alors ça c'est Benjamin Lisan qui a contacté des chercheurs suisses qui travaillent beaucoup sur les fins dernières. Et on s'est basé aussi sur un ouvrage du journaliste Bromberger qui était 3 semaines dans le coma et dont la femme avait enregistré ses délires comateux, si vous voulez, avec un magnétophone. Alors ça c'était intéressant.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé?
Aussi le paranormal dû aux religions, paradis, purgatoire, enfer, vous voyez. Où là, on tombe vraiment dans des délires, vous voyez. Ben, comme avait dit un spécialiste de religion, c'est difficile de démontrer l'existence ou l'inexistence de Dieu. C'est assez compliqué. Par contre, démontrer les absurdités des paradis et enfer, c'est très facile. Et c'est surtout là-dessus que je me suis basé, vous voyez. Pour que Dieu existe ou n'existe pas, on s'en fout. Mais d'un autre côté, l'histoire des paradis, quand on y réfléchit, si on est au paradis, ça sera vraiment mortel, comme je dis. Il n'y a aucune progression, vous voyez. Mm-hmm. On est dans un état figé, proche du coma, vous voyez. Donc, il n'y a aucune évolution. Donc, même les descriptions du paradis selon les religions, ça rime à rien.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est aussi un problème important qu'on devrait aussi faire mieux connaître, vous voyez. Et on est en plein paranormal, vous voyez.
Ouais. Donc, maintenant, vous êtes en train...
Et là, dernièrement, j'ai fait je pourrais vous l'envoyer, une conférence au cercle Ernest Renan sur les reliques.
Ah ouais.
Donc, les reliques sont-elles des impostures? Bien sûr, c'est des impostures, à part quelques-unes récentes, vous voyez. Okay. Donc, j'ai attaqué le problème des suaires, de Cadouin et de Compiègne et puis de Turin. Parce qu'il y a une certaine époque, il y avait une soixantaine de suaires reconnus dans le monde chrétien, vous voyez. Donc maintenant, on admet qu'il n'y a que celui de Turin, mais on a mis un certain temps à l'admettre, vous voyez.
Oui, vous êtes en train de promouvoir votre nouveau livre, donc maintenant, sur quoi?
Oui, alors ça sera surtout axé sur Chevreul, vous voyez. Et il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'était vraiment un savant qui est encore méconnu, mais il a sa statue au Jardin des Plantes, parce qu'il a été presque 70 ans, il a commencé à ses premières recherches au muséum en 1808, et il est mort au Jardin des Plantes, au muséum, en 1889. Donc, vous voyez, il est resté au muséum avec des responsabilités importantes. Pendant 65 ans, il a été directeur du muséum d'histoire naturelle. Donc, il a côtoyé pratiquement... Le muséum était le grand centre de recherche français, si vous voulez, au 19e siècle. Et vers la fin de sa vie, il y avait Becquerel même, qui a découvert les premières lois sur la radioactivité.
Oui, donc votre...
Donc il a commencé avec Vauquelin et il a pratiquement connu Becquerel à la fin de sa vie.
Donc votre prochain livre sera une sorte d'autobiographie.
C'est ça, oui. Parce que, et là, je m'attache aussi à ce qu'il a appelé Chevreul, la philosophie naturelle qu'il a, justement, la philosophie naturelle, c'est du rationalisme très proche de la zététique, vous voyez, qui remonte à Aristote. En enlevant toute la métaphysique, vous voyez.
Très bien.
Ce qu'a repris Claude Bernard, vous voyez.
Tout à fait, ouais.
Alors ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Non, on pourrait beaucoup parler sur Chevreul, parce que comme il a côtoyé beaucoup de gens, il s'est même intéressé à la photographie, à la fin de... Sur la fabrication des premières plaques... photo, il a travaillé donc avec Nadar, vous voyez, le grand photographe, pour améliorer les plaques de gélatine. Vous voyez, ça c'est quand même intéressant. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un encyclopédiste, vous voyez.
Oui, oui, ça a l'air, il est assez formidable, quoi. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie, ça c'est clair.
Ah oui, oui, il a, je crois, plus de 800 articles qu'il a fait. Une cinquantaine d'ouvrages, vous voyez. Alors, bien sûr, il a été vers la fin de sa vie un peu cabotin. Il a financé pas mal d'écoles catholiques, vous voyez, dont la principale école de Lyon, une école qui est aussi lycée, la plus grande école catholique de Lyon, c'est l'Institut Chevreul à Lyon, vous voyez, qui a été financé par lui et son fils. Donc, comme vers la fin de sa vie, c'était surtout les francs-maçons avec Berthelot qui avaient le pouvoir. Donc, ils ont cherché à menuiser, si vous voulez, le rôle de Chevreul.
Très bien, nous arrivons tout doucement à la fin de cette interview.
Oui, ben, je crois que c'est intéressant. Au revoir. Alors.
Je vous rappelle que si vous appréciez le balado scepticisme scientifique, cela aide de d'écrire un commentaire sur iTunes et de mettre une note au balado. Un certain nombre d'auditeurs l'ont fait et je les en remercie, mais plus il y en a, mieux c'est. Donc si vous n'avez pas encore pris le temps d'écrire un commentaire à propos du balado et de mettre une note, prenez 5 minutes, ouvrez votre iTunes sur votre ordinateur. Il vous faut donc une identité iTunes donc pour pouvoir vous connecter. Et puis écrivez un commentaire et mettez quelques étoiles en fonction d'à quel point vous aimez ce balado. Merci d'avance. C'était Jean-Michel Abrassard pour le balado Scepticisme Scientifique. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement vôtre. I didn't know what to believe. Now I find my way, I know where we come from. Everything's clear, I'm a pastafarian. Flies by any monster, flies by any monster, flies by any monster, flies by any monster. He created what we see and what we feel. He's the father of the universe. Jesus, Mahomet, Moses and the band are just like us, his children. Flies by the monster, flies by the scientific evidence pointing toward evolutionary processes is something put in place by him. He's made of spaghetti and meatballs. He flies through the universe, touching things with his newly appendage. You have been touched, I have been touched. We are his children, the Pastafarians. Hallelujah, forget Darwin, let him clean up your mind. Feel the power of his balls.
His only enemy's common sense. You will never find it here. We're useless and we need a guide. Let him fill our empty brain.